Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est midi ici à Paris, 13h dans la ville de Goma.
Grégoire Morelli.
Et à la une, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, où les combats se poursuivent entre l'armée congolaise et le M23 soutenu par le Rwanda. Des affrontements ont été rapportés ce matin dans les environs de Goma. Nous serons en ligne avec notre correspondante dès le début de ce journal. À suivre également l'Ukraine qui, malgré des difficultés sur le front dans la région de Donetsk, poursuit ses attaques de drones en territoire russe en ciblant des sites stratégiques, vous l'entendrez. Aux États-Unis, la capitale Washington a vu hier se tenir le rassemblement annuel des opposants à l'avortement. Après la décision de la Cour suprême de ne plus garantir ce droit au plan national, les participants à cette marche veulent aller plus loin. En République démocratique du Congo, situation sécuritaire tendue dans les environs de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Des combats opposent depuis plusieurs jours l'armée congolaise et ses alliés au groupe M23 renforcé par des soldats rwandais. Hier, le président Tshisekedi a tenu un conseil de défense où il a demandé à ses responsables militaires de repousser l'agresseur loin de Goma. Il a également annoncé la mort du gouverneur militaire du Nord Kivu, tué lors des combats. Nous sommes en ligne avec Paulina Azidi. Bonjour Paulina.
Bonjour.
À Kinshasa pour RFI. Paulina, les affrontements ont donc repris ce matin.
Oui, selon les premiers témoignages, ils font état de détonations toujours entendues dans les environs de Goma. Selon nos informations, si la situation semble s'être pour l'instant calmée au nord, côté Kibumba, les affrontements sont en cours sur l'axe de Sake. Durant la journée de vendredi, les combats ont été intenses sur les deux fronts, mais les lignes n'ont quasiment pas bougé. Le verrou sécuritaire est solide, confié hier soir un responsable militaire congolais.
Une situation qui fait monter la tension sécuritaire d'un cran à Goma, déjà saturée de déplacés depuis de longs mois, Paulina.
Selon l'ONU, plus de 400 000 personnes ont été déplacées par les combats uniquement depuis le début du mois de janvier. C'est le double des chiffres annoncés la semaine dernière. Les hôpitaux sont aussi saturés par les blessés, des militaires, mais aussi des civils. Plusieurs chancelleries ont demandé à leurs ressortissants de quitter le secteur. Des déclarations ont condamné la dernière offensive du M23 et la menace que les rebelles font peser sur la capitale provinciale. L'Angola, médiateur de cette crise, demande une nouvelle fois à toutes les parties de rejoindre la table des négociations, alors que l'Union européenne durcit le ton et assure qu'elle considère, je cite, « tous les outils à sa disposition afin de demander des comptes aux responsables du maintien du conflit armé ».
Et les précisions de Paulina Azidi à Kinshasa pour RFI. Kiev a ordonné hier de nouvelles évacuations obligatoires dans la région orientale de Donetsk, une annonce qui intervient au lendemain d'une décision similaire des autorités dans l'oblast de Kharkiv cette fois, preuve des difficultés rencontrées par l'armée ukrainienne qui perd du terrain quotidiennement. Je vous le disais, les attaques de drones à grande échelle continuent elles aussi sur le territoire russe. Kiev confirme viser des cibles stratégiques loin de sa frontière avec la Russie, avec une série de frappes sur plusieurs régions. Précision depuis l'Ukraine avec notre correspondante Emmanuelle Chaz.
Depuis plusieurs semaines, l'Ukraine a intensifié ses frappes contre les infrastructures militaires et énergétiques de Russie à l'aide de drones de longue portée visant à affaiblir la capacité de production d'équipements et de carburant destinés à l'armée de Moscou. Les services de renseignement ukrainiens ainsi que les forces spéciales ont confirmé avoir visé plusieurs sites dans la nuit du 24 janvier, dont l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie dans la région de Ryazan, située près de Moscou, à plus de 500 km de Kiev, et une usine de composants microélectroniques de la région frontalière de Bryansk, composant essentiel dans les drones et missiles lancés quotidiennement par la Russie sur l'Ukraine. Ce n'est pas la première fois que cette usine est touchée et côté russe, des habitants des régions impactées ont parlé de plusieurs dizaines d'explosions alors que le ministère de la Défense russe affirme avoir intercepté des dizaines de drones ukrainiens sans faire état des dégâts causés par ces frappes. Pour Kiev, ces frappes stratégiques entraînent un ralentissement de l'approvisionnement des troupes russes en équipement et en carburant, ce qui permet aux forces ukrainiennes de tenter d'égaliser le rapport de force sur le terrain face à une armée russe qui, jusqu'à présent, a disposé de plus de personnel et d'équipement sur la ligne de front. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Toujours concernant le conflit russo-ukrainien, le président Volodymyr Zelensky a accusé Vladimir Poutine de chercher à manipuler Donald Trump après que le président russe s'est félicité du retour au pouvoir du républicain à la Maison-Blanche et qu'il s'est dit également prêt à le rencontrer pour négocier la fin du conflit. La crise en Ukraine en 2022 aurait pu être évitée si Donald Trump avait été président, c'est ce qu'a assuré de son côté hier après-midi Vladimir Poutine. Les électeurs de Biélorussie appelés aux urnes demain dimanche, au pouvoir depuis 30 ans et bénéficiant du soutien de son allié russe, la réélection d'Alexandre Loukachenko est attendue. Le Parlement européen et plusieurs pays occidentaux dénoncent ce scrutin qui s'apparente à un simulacre. Le président candidat à un septième mandat s'est employé à faire taire les voix dissidentes dans son pays. Au moins 1250 militants politiques croupissent dans les prisons en Biélorussie. Dans le reste de l'actualité, l'administration Trump a demandé le licenciement de fonctionnaires chargés de promouvoir la diversité. C'est limogeage qui concerne 12 responsables, confirme ainsi la volonté du républicain de s'en prendre à ce qu'une partie des conservateurs américains considèrent comme des excès des programmes de diversité et d'inclusion des minorités. Les États-Unis, où hier à Washington, c'était la traditionnelle marche pour la vie, le rassemblement annuel des opposants à l'avortement. Depuis la décision de la Cour suprême de ne plus garantir ce droit au plan national, certains États l'ont interdit, mais pour les participants à la marche, souvent des jeunes, ce n'est pas assez. Reportage avec notre envoyé spécial permanent Guillaume Nodin.
Comme chaque année, ils sont des dizaines de milliers. Il y a de très nombreux jeunes venus de lycées ou d'universités chrétiennes, comme la Liberty University en Virginie, qui, selon sa page d'accueil, veut former des champions pour le Christ, comme Roman.
Chaque vie, qu'on soit né ou à naître, a de la valeur grâce à Jésus. C'est pour ça que je suis là. L'avortement n'est pas encore terminé aux États-Unis. Il y a des avortements chimiques et un tas de trucs qui permettent aux gens d'avorter chez eux, et il faut y mettre fin.
À la tribune, les leaders politiques républicains se succèdent pour manifester leur soutien au mouvement anti-avortement. Il y a le speaker de la Chambre des représentants, Mike Johnson, ou le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Cela se passe à quelques centaines de mètres de la Maison Blanche que vient de réintégrer Donald Trump. Et pour Victoria, étudiante à la George Washington University de la capitale, c'est une bonne occasion de lui rappeler la force de ce mouvement.
Je pense que cela envoie un message très fort à Trump pour lui dire que beaucoup de ses électeurs comptent sur lui. Et cela en fait partie. Ron DeSantis était là. Et il dit de ne surtout pas laisser tomber le mouvement pro-vie. Ce n'est pas une chose sur laquelle vous devez transiger juste pour être élu. Donc c'est un message clair. C'est quelque chose que veulent les Américains.
Et d'ailleurs, en l'absence physique de Donald Trump, son vice-président J.D. Vance est venu parler aux marcheurs. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Un mot encore des États-Unis où la nomination de Pete Hegseth comme chef du Pentagone a été approuvée de justesse ce vendredi par le Sénat américain, malgré des accusations d'agression sexuelle, une consommation excessive d'alcool et un manque d'expérience décrié par le Sénat. Sa nomination a donc été validée. À 44 ans, cet ancien militaire, également ex-présentateur de la chaîne Fox News, va ainsi prendre la tête d'un ministère doté d'un budget de 850 milliards de dollars annuels. Un mot de sport pour terminer, puisque ce samedi marque le début de la campagne Sport Féminin Toujours, une campagne qui encourage les médias à mettre en avant le sport féminin. Et à cette occasion, l'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel en France, publie une étude sur la représentation des femmes dans les médias pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Bilan des encouragements plus que des félicitations, Baptiste Leduc.
Les Jeux de Paris 2024 ont été ceux de la parité sur le terrain et les médias n'ont pas été loin de l'atteindre. Selon l'ARCOM, lors des JO, 42% des retransmissions concernaient des athlètes ou des équipes féminines, record olympique largement battu.
Est-ce que c'est un socle sur lequel on peut s'appuyer ? Est-ce que c'était une petite parenthèse enchantée comme des fois on a peur que ça soit ?
Emmanuelle Asman, ancienne para-escrimeuse, espère que cet élan se poursuivra jusqu'aux Jeux d'hiver de 2030 dans les Alpes françaises.
Je pense que c'est un peu comme le droit des femmes, c'est-à-dire qu'il y a des victoires, mais qu'il ne faut jamais lâcher et baisser les bras et enlever de l'énergie pour se dire qu'il y a encore du chemin à faire.
Euro de football, mondial de rugby et de handball, le calendrier du sport féminin est bien chargé en 2025 et Laurence Pécaud-Rivolier, qui a conduit l'étude de l'ARCOM, attend les médias au tournant.
Maintenant, entre ce qui est dit et ce qui sera fait, ça va dépendre de deux éléments. Ça va dépendre du volontarisme des éditeurs à continuer à mettre à l'écran ces sports féminins, parasports, qui sont beaucoup moins présents jusqu'à présent. Et ça va dépendre aussi, évidemment, du maintien de l'intérêt des téléspectateurs.
Son étude pointe aussi l'autre grand chantier à mener. Lors des Jeux de Paris, les femmes journalistes ont représenté seulement 18% du temps de parole à la télévision.
Baptiste Leduc pour cette fin de cette édition. Et tout de suite, vous retrouvez Juliette Rangeval pour Carrefour du Maghreb. Bonne suite des programmes.